Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission de 30 minutes sur le cinéma avec des films qui sont en salle depuis le 20 mars. Et il va y avoir de la sueur et de l'hémoglobine, messieurs, notamment. Alors l'hémoglobine, c'est pour toi, Manu.
Oui, mais très légèrement, hein, avec un film québécois, vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Et puis je vous dirai ensuite un mot sur Le Voyeur de Michael Powell.
Alors ça nous donnera d'ailleurs l'occasion de jouer un blind test autour des films de vampires, il y en a beaucoup. Donc il faudra trouver eh bien 5 titres de films. Et quant à toi, tu nous emmènes dans les saunas, Guillaume.
C'est ça, il va y avoir beaucoup d'eau. Hein. C'est pour Smoke Sauna Sisterhood.
Et puis on va parler aussi d'un sujet grave. En tout cas, c'est pas nous qui en parlons, mais Christine Angot. Et c'est un sujet qu'elle connaît bien. C'est celui de l'inceste. Nous parlerons de son documentaire Une Famille. Mais nous commençons donc avec une incursion dans les saunas sacrés d'Estonie.
This is Cinérama.
Et ça c'est clair.
En Estonie, il y a l'institution du sauna ou du smoke sauna en anglais. Alors Smoke Sauna Sisterhood, dès son titre, donc, récupère cette institution ancestrale pour mieux se l'accaparer en le féminisant. Alors Sisterhood, hein, signifiant sororité, on suit une petite troupe de femmes qui se mettent à nu au sens propre comme au figuré pour parler de leurs conditions de femmes et leur vie avec et par rapport aux hommes dans un lieu isolé de tout et donc protecteur qui sert également, de manière ironique, à suspendre des morceaux de cochon préalablement découpés. On a l'impression d'être pendant un bon moment au XVIIIe siècle, jusqu'à ce que l'une d'entre elles se mette à parler de son expérience avec Tinder. Et là, c'est un peu la dégringolade, hein, car ce havre de paix, hein, qui semblait complètement déconnecté de la réalité, se retrouve ramené au XXIe siècle, et le contraste avec cette impression d'être loin de l'ère moderne va nous rappeler à quel point certaines choses ne changent pas, et qu'il y a encore du chemin à faire pour une véritable émancipation de la femme dans certaines configurations ou endroits du globe. Car le sentiment, hein, d'être au XVIIIe siècle n'est pas dû qu'au lieu, hein, et au rythme de la discussion, il est aussi dû au fait, hein, que les propos qui s'enchaînent depuis le début ramènent à une condition profondément moyenâgeuse de la femme, et encore. Nous sommes bien loin, hein, de l'inamoramento de la princesse de Clèves, voire de l'amour courtois chez Chrétien de Troyes. Hein. Ici, on considère la femme comme un objet, hein, qui sert à faire des enfants et à procurer un peu de plaisir quand on décide de ne pas être trop dégoûté de ne pas avoir enfanté d'un garçon. Et si certaines pensionnaires du sauna s'en sortent franchement mieux que d'autres, l'indifférence, le mépris ou la violence, hein, ne sont au final jamais bien loin pour nous ramener, hein, à un traitement digne, ben, d'un sous-homme, justement. Smoke Sauna Sisterhood est quelque part assez amusant, si on peut dire, hein. Surtout pour les amateurs de cinéma. Car si la forme comme le fond ne sont au final pas forcément transcendants lorsqu'on a identifié, bah, la mécanique extrêmement simpliste du film, il y a une esthétique naturelle propre aux pays nordiques qui fait penser à certaines images iconiques de grands films muets. La vision de ces corps nus de femmes, hein, qui se baladent dans les bois, contemplant la nature ou communiant dans la fumée, hein, rappelle furieusement, bah, les images iconiques de Aksan, hein, la sorcellerie à travers les âges, de Benjamin Christensen. Ce magnifique film suédois, hein, de 1922, et lui aussi affilié au documentaire, car il se présente à la base comme un documentaire, mais pour mieux jouer avec les codes de la fiction, pour représenter un spectacle et des reconstitutions qui n'auraient jamais été tolérées en dehors, ben, du pur cadre scientifique duquel il se revendique. Mieux, hein, à travers son étude de la sorcellerie à travers les âges, il s'acharne à démontrer que la figure de la sorcière n'est au final quasiment rien d'autre qu'une succession de cabales menées contre les femmes, dont le corps et la sensualité causaient de grands et profonds émois chez les religieux de tout poil, qui n'ont n'ont jamais rien trouvé de mieux que de le censurer au mieux ou au pire de le martyriser. Alors de simple documentaire, il passe donc à l'étape du pamphlet qu'on pourrait qualifier de féministe, terme qui correspond parfaitement bien plus de 100 ans après à Smoke Sauna Sisterhood. Alors malheureusement, il n'est pas sûr que le film de Hannah Hintz survive aussi longtemps, car en dehors de ses images parfois très très belles et de ses transitions enfumées, il ne reste pas grand chose à retirer de ces témoignages qui sont édifiants et qui font bien leur travail de renseignement, d'effroi et de militantisme, mais qui restent quelque part aussi flottants que cette fumée qui s'échappe des pierres brûlantes. L'ensemble est trop épuré, trop général, trop anonyme pour véritablement nous emporter après la projection. Bien sûr, certains propos sont glaçants et frappent par la violence vécue par les victimes qui les rapportent, mais le tout s'envole comme un rêve où l'on souhaite des lendemains meilleurs, mais sans forcément savoir quoi faire pour aider concrètement ces femmes isolées dans l'espace et dans un certain temps. Alors prenons-en ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire une certaine prise de conscience chez certains spectateurs qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire en matière de défense des droits des femmes.
Smoke Sauna Sisterhood est en salle depuis le 20 mars. Christine Angot, qui a consacré une partie de son œuvre littéraire à l'inceste, a choisi de faire un documentaire et de faire parler sa famille. Nous parlons maintenant d'une famille de Christine Angot.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
J'en ai marre de parler de ça. J'en ai marre que mon travail soit envahi par ça.
Une nouvelle corde à son arc pour Christine Angot qui sort son premier film, un documentaire fracassant et difficile. En France, on la connaît plutôt pour sa présence médiatique parfois très controversée, ses ouvrages littéraires, avant tout, une vingtaine de romans souvent autobiographiques, pour l'autrice qui a été la première à oser parler d'un sujet aussi sombre que tabou, dès 1999, lorsqu'elle signe « L'inceste ». Depuis, ce thème, plaie personnelle, peine fondatrice, a été décliné dans plusieurs de ses ouvrages, dont son dernier, Le Voyage dans l'Est. C'est dans le cadre de la promotion de ce roman-là, en se rendant justement à Strasbourg, qu'elle décide de commencer à filmer. La récente cinéaste s'était déjà rapprochée du cinéma, mais en tant que scénariste, sur des films de Claire Denis notamment, ou pour une adaptation d'un de ses romans, Un amour impossible, par Catherine Corzini en 2018. Ici, elle s'engage dans une démarche de réalisatrice pour un film documentaire autobiographique qui s'inscrit donc véritablement dans la lignée de sa littérature. Alors en partant pour Strasbourg, elle embarque avec elle deux caméras, la chef opératrice Caroline Champetier et un objectif, celui de parler de ce qui lui est arrivé, de se faire entendre par sa famille. Car l'inceste touche toutes les personnes qui sont autour de l'agresseur et de l'enfant qu'il a subi, qu'ils le veulent ou non.
Parce que ça, c'est moi à la très mauvaise époque. Là, j'ai 13 ans, donc là, c'est le moment où ça commence. Et je sais la pensée qui va avec.
Depuis l'inceste, depuis 1999, c'est-à-dire plus de 20 ans, Christine Angot, parmi tous les écrivains contemporains, est celle qui a subi le plus grand mépris de la critique littéraire.
Absolument,
mais le plus grand mépris.
J'ai quand même entendu, dans le mystère, me dire, quand mon père est mort, il m'a quand même dit, de toute façon, il a toujours dit que tu fabulais.
On peut relever que le contexte est plus propice que jamais pour accueillir ce film. La sortie récente à la rentrée littéraire 2023 de l'ouvrage « Triste tigre » de Neige Sino, adoubé de nombreux prix, a suscité une unanimité assez rare qui témoigne bien que le sujet de l'inceste rencontre peut-être enfin un public prêt à le considérer, prêt à arrêter de fermer les yeux sur une réalité sordide. Car les chiffres de l'inceste en France, les statistiques nous le disent, c'est 3 enfants par classe, abusés dans le silence écrasant du foyer familial. On a pu voir aussi au cinéma Un silence de Joachim Lafosse cette année, qui filme l'inceste du côté de la honte. Le terrain est peut-être suffisamment travaillé, balisé, pour accueillir comme il se doit la proposition cinématographique d'Angot.
Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient. La phrase ne se formait pas. Elle se fracassait sur ma vie.
Strasbourg, c'est là où la jeune Christine Angot rencontre à 13 ans son père, qui accepte enfin de la reconnaître. C'est à partir de là qu'il abuse d'elle, et ce jusqu'à ses 26 ans. Décédée à l'aube des années 2000, ce n'est pas cet homme qu'elle peut donc confronter, caméra bouclier au poing. Elle se rend chez sa belle-mère, dans un premier temps, hésitante, terrifiée, en colère et pétrie de honte. On lui ouvre la porte, mais elle se retrouve à l'enfoncer violemment pour pouvoir faire passer son équipe et filmer l'échange qu'elle souhaite avoir avec sa belle-mère. Une femme qui savait ce que son mari a fait, mais ne l'a jamais reconnue, et qui, même là, dans son intérieur bourgeois, tout de blanc immaculé, face à sa belle-fille en blouson de cuir noir, bouillonnante d'émotions, ne parvient pas à l'écouter. Tout le film s'organise donc autour d'une quête de reconnaissance de la vérité dans un dispositif qui fait s'alterner au montage de types d'images. D'un côté, l'enquête au présent, qui consiste en des face-à-face avec les différents membres de la famille, et de l'autre côté, en contre-pied, des images d'archives au Super 8 avec sa fille Léonore, enfant. Ces images ramènent des respirations assez salvatrices dans le film. Elles renvoient à la douceur des liens filiaux, font écho à l'innocence de l'enfance, à la propre innocence d'Ango, au lien de protection qui unit une mère à son enfant. Passé et présent se répondent à mesure que les consciences et responsabilités de chacun sont ébranlées, à mesure que la honte s'amenuise pour laisser place aux différents récits, à mesure que la vérité est entendue.
J'ai été celle qui a été pendant des années tout pour elle et elle a été tout pour moi.
Moi, je suis à ta place quand j'entends.
On s'est trompé, toi et moi, sur notre histoire. On s'est trompé sur ce qui nous unissait.
Depuis le début, voilà.
Elle m'a protégée. Inversion des rôles.
Il y a le nom.
Il y a le nom ?
Tu dis que c'est moi ? Tu dis que c'est moi ou tu sonnes ? Oui, bonjour, c'est Christine.
Ça m'est tombé dessus, dit-elle. L'inceste, ce sont des violences ineffables qui transforment la conscience en champ de bataille pour la victime. Dire l'inceste, c'est évidemment donner un grand coup de pied dans la fourmilière familiale et transformer les consciences de tous les proches en champ de bataille. C'est ce qui donne lieu dans le film à de grandes étapes de réparation, particulièrement bouleversantes hein, dans les liens mère-fille, avec l'ex-mari aussi, et il apparaît qu'Ango cherche auprès du spectateur une autre reconnaissance, celle du mépris dont les médias et la réception critique ont fait preuve vis-à-vis de ses œuvres et de sa personne, vis-à-vis de la colère qui l'anime toujours. Or la dégradation qu'elle a subie hein, continue de se jouer chaque jour au présent, c'est le type d'abus dont on ne se remet pas, le vivier d'une sourde colère à hauteur de l'horreur d'une telle injustice. Peut-être qu'un cap a été franchi dans la libération de la parole sur les sujets des violences sexuelles cette dernière décennie. Cette libération de voix polyphonique s'accompagne également d'une reconsidération de ce que l'intime a d'éminemment politique. Mais croire n'est pas suffisant, Christine Angot démontre bien dans cette réalisation, être en mesure d'écouter vraiment apparaît plus que jamais nécessaire pour tacler les systèmes qui permettent de laisser faire.
Une famille de Christine Angot est en salle depuis le 20 mars. Une jeune vampire trop humaniste pour mordre. Heureusement, elle fait la rencontre d'un jeune homme suicidaire. Nous parlons d'un film québécois.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
La séquence pré-générique hein, désopilante fonctionne en autonomie, comme un court-métrage inventif. Alors, sans mauvais jeu de mots, hein, le film ne retrouvera pas le mordant de cette entrée galvanisante. Un clown est invité par les parents de Sacha pour une représentation pour son anniversaire. Alors, il ne fait rire personne, hein, mais fascine la jeune fille, dont on ne sait si elle est sous le charme ou dubitative. Sauf qu'il n'a pas été convié pour divertir, ou du moins pas dans ce seul but, mais pour être vidé de son sang par Sacha, la petite dernière vampirette d'une longue lignée. Alors seule hic, elle n'y arrive pas, trop empathique envers ses potentielles victimes. Son humanisme l'empêche de mordre. Ses parents inquiets à son sujet l'emmènent chez le dentiste qui constate un problème de croissance canine. Le psychologue, alerté par la situation critique, diagnostique un blocage lié à sa nature, empêchant toute forme d'émancipation. La fluidité d'une mise en scène sert la finesse d'écriture d'un comique de situation malin, prenant comme point de départ le fait que les vampires peuvent être des parents, comme tout le monde, attentifs à l'éducation de leur progéniture.
C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans.
Mais quoi, c'est moi qui est allé lundi.
Ah bon?
C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir. Pas sa faim.
Les goûts, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça.
J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça.
T'es-tu peut-être pas, Sacha, mais t'es mange pareil.
La suite n'est pas à la hauteur, hein, trop lisse et consensuelle pour convaincre. Mais soyons bienveillants, un vampire humaniste cherche suicidaire consentant demeure un joli teen movie joyeusement dépressif entre les films d'ados des années 80-90 et les films de vampires hein, de l'expressionnisme allemand à vampire, vous avez dit vampire. Le bon goût hein, de la jeune cinéaste Ariane Louis XVI, ça ne s'invente pas hein, comme nom de famille, a aussi le mérite de ne pas figer le film qui avance avec sa propre sensibilité à travers les deux personnages principaux, Sacha donc, et le jeune garçon suicidaire Paul, qui consent à lui offrir sa vie. Alors d'où vient le sentiment de frustration et même de déception? L'explication est à chercher peut-être du côté du scénario, pétri de bonnes idées et d'excellents dialogues, mais figé dans un programme attendu dès la rencontre des deux corbeaux à la recherche d'un peu d'amour. Alors comme dans une comédie romantique lambda, hein, toute la mécanique du récit saute aux yeux au point d'anticiper tous les événements jusqu'à l'épilogue convenu dans l'hôpital.
Il n'y a pas quelque chose que tu aimerais faire?
Hein?
Une dernière volonté? Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il y avait tout en ami.
C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose.
Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort.
Ce n'est pas tant les conventions du genre qui dérangent, mais le fait de ne jamais faire un pas de côté à l'intérieur d'une narration qui manque d'aspérité. Cette absence de risque est d'autant plus dommageable que le film affiche une tenue visuelle élégante, de la belle photographie à la fois sombre et colorée, tout en contraste saisissant au très beau plan large savamment cadré. Le choix d'assumer le plan fixe, rare au sein du cinéma de genre, souligne le talent de la jeune réalisatrice qui laisse à ses personnages le temps et l'espace d'exister. Alors Sarah Monpetit et Félix-Antoine Bénard forment un couple antinomique mais complémentaire, très crédible. Ils ont en commun une étrangeté communicative, une mélancolie qui infuse au film un charme touchant lors des moments de suspension entre les deux acteurs, mais qui peine à s'articuler avec les péripéties nocturnes, mécaniques et répétitives. Alors les moments obligés, le passage à l'acte de Sacha, sont traités sans conviction et les personnages secondaires sont à peine développés, laissant en berne tous les ressorts comiques possibles. Ariane Louis XVI paraît mal à l'aise avec le genre, toujours à la périphérie, dans un décorum un peu cliché et déjà vu, comme si elle s'excusait auprès de son public de s'encanailler un peu. Le film donne l'impression d'avoir été mis en scène par une jeune fille sage, talentueuse, mais qui ne connaît pas assez bien le cinéma qu'elle aborde pour le transcender et le maltraiter. Aucune goutte de sang ne vient entacher la joliesse formelle de cette incursion dans un univers qui a quand même besoin d'écarts de conduite et puis de quelques excès graphiques. Alors, malgré cette approche, on va dire, timorée de la matière, du genre même, vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, s'apprécie comme un feel-good movie gothique, très légèrement horrifique. Confirmation néanmoins de la bonne santé d'un cinéma québécois aussi varié qu'imprévisible, qui commence à s'imposer tranquillement, mais sûrement, dans nos contrées. Après, notamment, en début d'année, il y a eu Le Plongeur et puis Les Chambres Rouges.
Effectivement, c'est un film québécois comme vous avez pu l'entendre au travers des extraits de la bande-annonce. Alors, est-ce qu'il est sous-titré d'ailleurs ?
Oui, il est sous-titré. Mais il est tous, même Les Chambres Rouges, qui pourtant, la plupart des comédiens avaient un français qui était très correct, en tout cas, qui n'avait pas d'accent marqué. Pas tout le monde. Mais on sent aussi une volonté dans beaucoup de films québécois récents de mélanger des accents québécois avec des accents français, en fait.
Et puis certains veulent assumer aussi la différence. Voilà. En tout cas, ce film, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, est en salle depuis le 20 mars. Il nous donne l'occasion de jouer un blind test sonore autour des films de vampires.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Alors attention, ce sont 5 extraits de films et normalement ça devrait être facile. Premier extrait.
Pardonnez ma curiosité, mais pourquoi 10 maisons à des endroits aussi précis autour de Londres ? Dans le but de réaliser une plus-value ?
Croyez-vous en la destinée ? Croyez-vous que même les pouvoirs du temps peuvent être modifiés dans un unique but ? L'homme le plus heureux de cette terre est celui qui trouve le grand amour.
Oh, et c'est trouvé.
C'est Bram Stoker's Dracula de Coppola, le film qui a sauvé Coppola de la faillite dans lequel il était depuis une dizaine d'années.
Film de 1992, adaptation du roman de Bram Stoker. Le film se démarque des adaptations cinématographiques antérieures en présentant le personnage du comte Dracula plutôt comme la victime d'une malédiction que comme un monstre. C'est avec Gary Oldman, Winona Ryder et Keanu Reeves qu'on écoutait dans ce court extrait. 3 Oscars à la clé et 3,1 millions d'entrées en France pour ce film de Coppola. Deuxième extrait, nous cherchons donc des films de vampires.
Vous devez bien comprendre, ils sont partout, les vampires. Les homines nocturna. Nous les chassons, voyez-vous. Nous suivons leur migration de ville en ville. Ils sont très durs à tuer. Leurs organes se régénèrent.
Et moi, je suis censé croire à cette histoire.
Vous avez fait la connaissance de Monsieur Carbonade à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en déduisez ?
Alors, qu'est-ce que vous utilisez ? Des pieux et des croix ?
Les croix, ça vaut pas de la merde. Une partie de la légende est vraie, cependant. Les vampires sont extrêmement allergiques à l'argent. Faites-leur absorber de l'œil et ils auront un choc terrible. Et bien sûr, il y a toujours le soleil et les rayons ultraviolets. J'ai réussi à faire fonctionner la lampe. Vous voulez l'essayer ce soir ?
Alors, ça n'a pas été trouvé ici dans les studios. Alors peut-être que vous, chers auditeurs, vous avez trouvé. Nous parlons là d'un guerrier mi-homme, mi-immortel, capable de vivre en
Blade
plein jour.
Oui. Blade ?
Oui, Blade.
Ah !
C'est ça. Et donc, il traque les vampires en pleine nuit et il va s'attaquer à Deacon Frost, un vampire qui va devenir très puissant.
Et oui, le grand film de Stephen Norrington. Tout le monde se rappelle de la suite de Guillermo del Toro, mais alors le film inaugural de Stephen Norrington, un petit prodige anglais, est vraiment génial.
Oui, moi j'ai trouvé personnellement le 1 meilleur que le 2. Je trouve qu'en plus, dans le 2, il y a beaucoup d'incohérences. Voilà.
Le côté génial où il y a l'ambiance des films de la Hammer, combiné à un film vraiment de son époque, de 98.
Et qui a lancé tout un tas de films de super-héros ensuite. Ça a un peu dynamisé la Marvel Company. 653 000 entrées en France pour ce Blade donc de 98. Troisième extrait des films de vampires.
Mais qui vous a dit qu'il y avait un bal ce soir?
Personne, je l'ai deviné. Vous avez un si grand château, c'est possible, je crois.
Ainsi l'a deviné, mais c'est juste. Il l'a deviné juste avec sa petite tête d'ange. Oui, Alfred, ce soir a lieu notre bal annuel. Jusqu'à l'aube, vous pourrez danser. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce que vous serez là dans vos petites menottes? Donnez. Montrez-moi. Alfred, montrez-moi.
Trouvé.
C'est le bal des vampires de Roman Polanski.
Oui, là il y avait beaucoup d'indices, hein, puisqu'il était question du bal d'ailleurs dans l'extrait. Film sorti en 67, le professeur et son assistant sont des chasseurs de vampires et ils se retrouvent dans le château de Von Krolok et de son fils qui prépare leur bal annuel des vampires. 3,4 millions d'entrées depuis sa sortie tout de même. Allez, quatrième extrait, nous cherchons des films de vampires.
Les premiers signes de déformation physique ont été l'allongement des oreilles. Les fonctions mentales telles que la logique, les émotions, les facultés langagières dans leur presque totalité se sont détériorées beaucoup plus rapidement que vous et votre équipe ne l'aviez présumé, messieurs les docteurs. Là-dehors, ces rats de tunnel, ces créatures souterraines sont sur le point de devenir un vrai problème. Messieurs, nous sommes en train de mourir de faim. Et selon les dernières statistiques, il ne reste plus que 5% de la population humaine.
Ce dont il est question en ce moment, c'est de l'extinction de la race humaine.
Ce dont il est question, c'est le fait que nous avons à peine assez de sang pour nourrir notre population jusqu'à la fin du mois.
Si on ne trouve pas un substitut sanguin immédiatement, c'est ça qui va tous nous arriver.
Trouvé.
Alors c'est Daybreakers, enfin, moi j'avais trouvé Daywalkers, Daybreakers, c'est des frères Spirig.
Si, je l'ai vu, oui.
Si. Film sorti en 2009 avec Ethan Hawke, William Dafoe, Sam Neill. Les vampires ont pris le contrôle de notre planète, les humains ne sont plus qu'une petite minorité entretenue uniquement pour nourrir la population dominante et un vampire qui se refuse de se nourrir de sang humain va découvrir un secret biologique qui peut tout changer. Ça a été un bide en France, 222 000 entrées seulement pour un film avec Ethan Hawke. Et par ailleurs, je vous le recommande tout à fait, parce que c'est un très très bon film.
Ça change de l'approche du mythe habituel, et puis c'est australien. C'est pas tous les jours qu'on voit un vampire australien.
Et c'est vraiment très surprenant, et c'est vraiment très bien filmé. Allez, dernier extrait de ce blind test.
Merci. Les sautes d'humeur commencent vraiment à me donner le tournis.
J'ai dit qu'il ne fallait pas qu'on soit amis, pas que je ne le voulais pas.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'à moins d'être stupide, tu éviteras de m'approcher.
Supposons pendant une minute que je sois stupide. Mais je sais où tu veux en venir. Tu dis ça pour éloigner les gens. C'est un masque. Tu me dirais la vérité?
Probablement pas, non. Mais j'aimerais entendre tes théories.
Oh, j'ai pensé aux... aux araignées radioactives, à la kryptonite...
Tout ça, c'est pour les super-héros, non? Et si je n'étais pas le héros? Si en fait j'étais le méchant?
Alors, c'est une autre catégorie de films sur les vampires.
C'est Twilight.
Oui.
Catherine Hardwick, c'est ça?
Oui, c'est ça. Sorti en 2008. Premier des 5 volets de la saga avec Kristen Stewart et Robert Pattinson. Bella emménage dans une petite ville. Elle croit s'y ennuyer, mais est intriguée par une bande et tombe amoureuse de l'un de ses membres. Elle se rend compte trop tard qu'il s'agit d'un vampire. Robert Pattinson a eu la décoration du meilleur baiser au MTV Movie Awards. Voilà. Il faut le savoir. Ainsi s'achève ce blind test autour des films de vampires. Il était question de Blade dans ce blind test, un film avec une bande originale aux petits oignons, et nous allons écouter un extrait de cette bande originale. C'est un groupe japonais, un trio féminin, Shonen Knife. Un homme commet des crimes en filmant ses victimes. Nous parlons de la ressortie du Voyeur de Peeping Tom de Michael Powell.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Je passe la majeure partie de mon temps dans un studio de cinéma.
Du côté de la caméra, j'imagine ?
Oui, j'espère pouvoir devenir très vite metteur en scène.
Oh, c'est très intéressant. Quand je suis arrivée, vous regardiez un film ?
Oui.
Un des vôtres ?
Oui.
Oh, j'aimerais bien en voir un. Oh, je sais, je suis un peu sans gêne, mais j'aimerais vraiment voir un film. Disons que ça serait un cadeau pour mon anniversaire.
Le Voyeur ressort dans une magnifique copie restaurée, à la fois dans les salles et sur support physique, dans une splendide édition bardée de bonus. Alors, référence absolue d'un certain cinéma de genre, cette production britannique réalisée en solo par Michael Powell, sans son fidèle comparse Emmerich Pressburger, sort en 1960, la même année que Psychose, son film, on va dire son film jumeau. Tout le monde le sait aujourd'hui, tourné dans un temps record noir et blanc, le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock est un carton en salle et un objet fétichisé par la critique en transe. Alors tout le contraire du Voyeur, Peeping Tom, le titre original, perçu comme une offense à la nation par la critique anglaise, retiré de l'affiche au bout d'une semaine, avant bien sûr une réhabilitation des années après par des cinéastes comme Bertrand Tavernier, Martin Scorsese et surtout Brian De Palma, pour qui le film reste la matrice d'une grande partie de sa carrière.
Qu'est-ce qu'il faisait exactement ?
Il était biologiste.
Et qu'est-ce qu'il cherchait avec vous ? Marc, à quoi voulait-il arriver avec vous ?
Il m'observait pendant que je grandissais. Il voulait un dossier complet sur la croissance d'un enfant. Complet, oui. Avec tous les détails. Comme si c'était possible. Et il a essayé d'y parvenir en passant son temps à me filmer. Il n'arrêtait pas. J'ai jamais connu un moment de tranquillité, d'intimité pendant toute mon enfance.
Et cette lumière dans les yeux ? Et cette chose ?
En fait, ce qui l'intéressait, c'était d'étudier la réaction du système nerveux devant la peur.
La peur ?
La peur.
Ce mélodrame morbide, combinant brillamment une touchante histoire d'amour et le proto-film de serial killer, dresse le portrait d'un jeune homme, Mark Lewis, obsédé depuis l'enfance par l'image et victime des expériences malsaines de son père. Le jour, il est premier assistant opérateur pour un studio et la nuit, caméra au point, il traque la peur de la mort sur les visages terrifiés de jeunes femmes juste avant de les tuer. Alors réflexion sur le voyeurisme et surtout sur la place du spectateur devant un film, le voyeur n'a pas pris une ride et contrairement à ce que l'on pourrait redouter à l'ère de MeToo, le film pose de bonnes questions, s'interroge sur nos pulsions scopiques et nos désirs de mort. Adoptant un point de vue masculin, à la fois critique et empathique, le voyeur puise sa puissance dans son dispositif d'identification inconfortable. Alors un très grand film aux couleurs sublimes est interprété par le très lisse, alors je ne sais pas si je vais à bien le prononcer, c'est Carly Jeans Baum, voilà, connu pour avoir donné la réplique à Romy Schneider dans Sissi. Il avait le rôle principal aux côtés de Sissi. À l'origine, c'était Dirk Bogard qui devait tenir le rôle, un acteur beaucoup plus important, mais finalement n'a pas tellement perdu au change parce que le visage de Poupin et puis la bonté du regard du comédien autrichien jette un trouble, une dichotomie entre son physique et les actes qu'il commet. Voilà, le film ressort donc vraiment, faut aller voir, c'est un très très grand classique et il fait partie, je dirais, des 100 chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma.
Oui, je pense, on peut même réduire ça à 30 chefs-d'œuvre.
Je ne sais pas, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de films.
Oui, c'est vrai. En tout cas, Le Voyeur de Michael Powell, film qui est enseigné, moi je me souviens qu'il a été enseigné dans le cours sur la représentation de la violence au cinéma, parce qu'il est assez fondamental dans cette lecture.
Et puis surtout, je pense qu'il peut intéresser un public jeune, en fait. C'est-à-dire, il a beau avoir 64 ans, visuellement, il est encore très beau, très, très agréable à regarder. Ce qui n'est pas toujours évident des films comme ça, des vieux films, en fait.
Le Voyeur donc est ressorti en salle depuis le 17 mars. Nous en parlons seulement maintenant parce que le sommaire de la semaine dernière était copieux.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine. Tu vas nous parler d'un remake.
C'est ça, celui de Roadhouse, où Jake Gyllenhaal va tenter de remplacer Patrick Swayze.
Eh oui, c'est pas rien. Et moi, je vous parlerai du jeu de la reine qui était présent en compétition à Cannes, et puis de la promesse verte. À la semaine prochaine.